l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 48. Toc, 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 c'est toi, cher Locke ?
Chers amis, bonjour.
Ah ! Si nous avions une caméra dans le studio radio, vous me verriez avec une loupe pour scruter notre invité dans, vous l'avez bien connu, c'est Max-Philippe Morel, un écrivain qui mélange un peu de réalité dans la fiction, ce qui est fort banal. Mais ce qui est plus intéressant, sa réalité à lui n'existe pas. Alors, parler de gens qui n'existent pas, c'est toujours le thème de « vous l'avez bien connu », mais là, cet inconnu, on le connaît bien, c'est Sherlock Holmes.
En effet. Bonjour, cher Max-Philippe Morel.
Bonjour, Ambroise Perrin, merci de m'avoir invité dans votre émission.
Mais de rien, c'est élémentaire, mon cher Max-Philippe Morel. Alors, eh ben, vous êtes relativement connu à Strasbourg comme écrivain, enfin surtout dans certains quartiers, peut-être cafés surtout, où il y a des Stammtisch.
Oui, absolument. Voilà, je suis très fier d'ailleurs qu'on me reconnaisse parfois, même sans que je sorte avec mon attirail holmésien, hein, comme on dit. Mais je suis assez connu à Strasbourg.
D'accord,
bien. Je peux dire ça sans fausse modestie.
Et alors pourquoi cet intérêt pour Sherlock Holmes qui, à ma connaissance, n'est pas né à Niederschaffolsheim ?
Ah non. Non, mais il n'est pas né, c'est comme la côtelette, hein. Il n'est pas né en Alsace, mais en Angleterre. Oui, mais il y a un château d'Angleterre à Strasbourg, ce qui permet de faire un petit lien. Mais vous savez, les passions, ça remonte toujours aux racines de l'enfance. Sherlock Holmes, ça me faisait rêver quand j'étais enfant. Mais en fait, ma passion pour Sherlock Holmes vient d'une frustration. Quand j'étais gamin, j'allais à la bibliothèque municipale et, comme tout le monde, on voulait emprunter les James Bond parce qu'ils étaient un petit peu cochons, les James Bond. Mais la bibliothécaire, hein, Madame Steinmetz, elle disait non, vous ne prenez pas... Alors, elle nous fourguait les Jules Verne. Alors, on pouvait lire les Jules Verne parce qu'on passait les pages de description, parce qu'autrement, c'était un peu trop long. Mais après... Elle m'a donné le Chien de Baskerville. Et là, ça a été vraiment une passion. Et après, j'ai lu le Secret de la pyramide, parce que j'avais lu aussi Les cigares du pharaon, Tintin, hein, Tintin en Égypte et tout. Et donc, voilà. Et c'est comme ça un petit peu que je me suis intéressé à Sherlock Holmes.
Au point que ça devienne presque obsessionnel pour vous, alors.
Oui. Oui, mais alors, une obsession, j'ai fait plein d'autres choses dans la vie quand même, mais on collectionne des papillons. On peut collectionner les recettes de Bredele. Hein, bonjour Simone. On peut collectionner les traductions de Madame Bovary. Ambroise Perrin, je sais que vous avez 500 exemplaires de Madame Bovary.
Elle est bien rangée dans ma bibliothèque.
Voilà. Et alors, moi, ce sont toutes les occurrences sur Sherlock Holmes. Dès qu'on parle de Sherlock Holmes, voilà.
Vous sautez dessus comme je la peste collectionne. Sur la population.
Voilà. Alors, est-ce que vous savez, cher... journaliste, investigateur, pourquoi quelqu'un l'appelle Herlock Holmes et non pas Sherlock Holmes?
Alors, il me semble savoir ça, mais suite à m'être renseigné sur vos écrits et surtout, il me semble avoir compris que c'est parce que Maurice Leblanc, qui avait utilisé le personnage de Sherlock Holmes dans une nouvelle...
Dans Arsène Lupin,
avait ridiculisé Sherlock Holmes dans cette première nouvelle. Parce que bien sûr, c'est Arsène Lupin qui gagne. Et les ayants droit de Conan Doyle lui écrivent en disant « Non, vous ne pouvez pas faire ça ». Alors très subtilement, enfin c'est relativement subtil, il a décidé de changer le nom et de mettre Herlock Holmes, un pseudonyme légèrement transparent quand même.
Hein. Oui, c'est rigolo, ça me fait penser à Boris Vian dans « L'écume des jours » qui appelle son personnage Jean-Sol Partre.
Oui, voilà, on devine un petit peu qui c'est.
Pour se moquer de lui, mais je crois qu'il y avait une histoire de CUL derrière. Hein, il lui avait piqué sa copine, que lui-même avait piqué à quelqu'un d'autre. Et donc forcément, on utilise des noms. Il y a beaucoup, Cohen aussi a fait ça. Enfin, il y a beaucoup d'écrivains Émile Ajar, alias Gray. Enfin, non, c'est toujours marrant d'être transparent tout en évitant les foudres. Donc vous, vos personnages, vous les utilisez comme lecteur. C'est du narcissisme ma question, mais vous, comme journaliste, hein, vous avez lu les livres de Sherlock Holmes en étant gamin. Mais est-ce que vous les avez relus récemment, ne serait-ce que pour m'interviewer, bien sûr. Mais oui.
Oui, bien sûr, pour vous interviewer, et puis parce que régulièrement des films sortent. Parce que régulièrement des nouvelles séries sortent, parce que régulièrement il y a des personnes qui écrivent des apocryphes, comme on appelle, c'est-à-dire qui utilisent le personnage pour écrire de nouvelles aventures.
Oui.
Parfois des enquêtes policières, parfois de la science-fiction, parfois du steampunk, c'est une science-fiction très particulière qui se passe au 19e siècle, mais dans un 19e siècle légèrement plus en avance qu'il ne devrait technologiquement. Donc tout cela fait qu'on sait, ça relance l'intérêt sur, sur les Holmes.
Ah ben, je vois que vous avez lu mon bouquin.
Je vois qu'entre autres, je me suis renseigné d'après votre bouquin et tous les autres bouquins qui ont été écrits sur ce personnage. Alors le vôtre, justement, il parle de beaucoup de la série Sherlock, surtout. C'est une des dernières séries qui existent, mais il y a beaucoup d'interprètes de Sherlock Holmes. Est-ce que vous avez un que vous préférez ?
Ah, écoutez, c'est difficile de dire, je ne sais pas, je vous reposerai la question, mais moi, celui que je préfère, c'est Peter Cushing, parce que je crois que c'est un des tout premiers à avoir joué, interprété Sherlock Holmes, c'est lui qui jouait Dracula, il me fait penser un petit peu au film de Murnau. C'est un acteur qui fait peur. Autrement, il y a Christopher Plummer, puis à la télé, Jeremy Brett, Ronald Howard, et puis récemment, Rupert Everett.
Oui, effectivement.
Alors, Rupert Everett, et on va avec lui au sommet de l'Everest. Oui, voilà. Bon, je ne sais pas s'il faut faire des astuces sur les noms comme ça.
Ah, pourquoi
mais,
pas.
Mais
oui.
Sur celui-là, oui, c'est rigolo.
Oui, ah, mais, si je comprends bien, vous avez du mal à choisir quand même.
Oui, parce que, en fait. Quand on plonge dans un bouquin et mon livre, là, Sherlock, la série qui réinvente Holmes, et puis surtout ce que je fais dans cette revue qui s'appelle Le Carnet d'écrou, dont je suis le trésorier, Take the Money and Run, à Strasbourg, on fait le catalogue de tout ce qui touche à Sherlock Holmes et donc de tous les interprètes. Et du coup, on a immédiatement une sympathie pour chacun d'entre eux, donc c'est difficile. Moi, je ne sais pas, vous, en tant que journaliste, lequel vous préférez ?
Ah ben moi, en tant que journaliste, j'ai la petite théorie qu'on ne peut pas en préférer l'un à l'autre. Parce que finalement, chacun a interprété à différentes périodes, déjà dès le muet, hein. Dès les années 10, il y a des interprètes. Donc comment comparer un interprète qui joue de façon muette dans les films où on faisait beaucoup de gestes, on avait des expressions de visage extrêmement exagérées. Comment les comparer avec un interprète d'aujourd'hui?
Oui, je sais, Ambroise, que vous êtes un grand cinéphile.
Voilà,
oui.
Moi j'ai vu beaucoup de films, surtout de l'époque des muets, vu mon âge, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr.
Donc j'ai une certaine expérience de ce côté-là. Du coup, Peter Cushing est arrivé après quand même. Oui. Et chacun joue Holmes à sa façon. Donc comparer, à mon avis, n'a pas beaucoup de sens. Et n'en préférer qu'un, ce serait quand même dommage vu le talent de chacun.
Oui. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont vraiment franchement mauvais ?
Alors oui, je pense qu'il y en a certains que vous avez remarqués comme étant quand même un peu plan-plan, on va dire, non ?
Oui. Hein, c'est comme les Maigret.
Oui, voilà. Alors Maigret, jouer plan-plan Maigret, moi, il me semble, comme enquêteur, lui, Maigret est un peu plus plan-plan que Sherlock Holmes, non ?
Oui. Oui, il y a aussi Rantanplan.
Oui, aussi Rantanplan, qui lui est carrément à côté de la plaque,
oui,
je pense. Hein.
Mais il tire moins long, moins vite que son nom.
Oui, lui. beaucoup moins.
Voilà, et tout.
Alors, vous me parliez de l'association, Max-Philippe Morel, là, d'une association que vous connaissez sur Strasbourg. Il y a tellement de gens qui s'intéressent à Sherlock Holmes Alsace, et plus particulièrement à Strasbourg.
Ah ben oui. Non, alors, bon, on a une association informelle, d'abord, qui s'appelle le Stammtisch littéraire. On se réunit une fois par mois avec tous ceux qui écrivent, qui font des bouquins, mais les autres ont le droit de venir aussi, c'est rigolo. Alors c'est assez drôle parce qu'on se regarde, alors pas en chien de Baskerville, mais en chien de faïence.
Je vois que les références sont toujours là. Hein.
Oui. Alors on a des sentiments mitigés. Il y a d'abord ceux dont on connaît le nom, mais on ne connaît pas le visage. Donc, c'est assez rigolo. Ensuite, il y a... Oh, mais mince, celui-là, l'éditeur, il lui a sorti son bouquin, là. Hein, marchand et pas le mien. Donc il y a un peu de jalousie ou de rancœur, mais en même temps, ça se transforme en admiration. On dit « Oh, formidable !» et tout. Et alors, on pose une question. « Ah oui, ah, merci beaucoup du compliment. » On pose une question et on s'aperçoit qu'il ne l'a pas lu. Hein. Mais comme disait Cocteau, les livres ne sont pas faits pour être lus, les livres sont faits pour être là. Donc voilà. Donc cette association, oui, on se réunit. Et puis, on a une autre association beaucoup plus pointue, uniquement sur Sherlock Holmes. Alors, j'ai des complices. Hein. J'ai François Hauff, qui... alors, lui, c'est un rat de bibliothèque. Un rat est entré dans ma chambre. il est allé chercher le catalogue 1934 de la Bibliothèque populaire de Strasbourg. Et il a relevé le nombre de fois que les gens prenaient les livres de Sherlock Holmes et tout. Enfin, un travail pratiquement scientifique, alors que lui, c'est un spécialiste plutôt des contes en Alsace et des châteaux forts, et voilà. Et donc, lui, c'est un peu la source, c'est notre dictionnaire dans notre association. Et puis, alors, on en a un autre qui est lui. Alors, il a les mêmes moustaches, mais il est beaucoup plus, comment dire... alors, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche, c'est-à-dire qu'il était journaliste aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Donc, à chaque fois qu'il écrit trois lignes, il fait la une du journal. C'est Jacques Fortier, bien sûr, de son vrai nom, voilà. Et alors, lui, c'est le pape à succès des relations entre Sherlock Holmes et Arsène Lupin. Parce que c'est une locomotive littéraire alsacienne, il est éminemment sympathique, débonnaire, sympa, on le croise au spectacle. Et si on veut le rencontrer, il donne rendez-vous au Königsbourg, bien sûr, puisque c'est là son premier roman, et qui marche vraiment bien. Alors, il ne dit pas vraiment les chiffres, mais on parle de 10 000 exemplaires, ce qui est énorme en Alsace. Quand je pense que moi, Max-Philippe Morel, un de mes romans, s'est vendu à 113 exemplaires. Donc c'est quand même un peu...
Dont une petite cinquantaine à la famille, non?
Oui, oui.
Ah,
oui.
Parce que les Morels sont assez nombreux, il me semble. Oui, donc je pense que vous avez une clientèle toute prête.
C'est souvent ça, oui. Mais alors, non, sur un tirage de 400, il y en a 200 qui sont offerts. Et puis les autres qu'on essaye de vendre. Donc c'est presque à compte d'auteur dans ces cas-là. Mais... c'est pour le plaisir d'écrire.
Et comme vous disiez, les livres ne sont pas faits pour être lus, ils sont faits pour être là.
Oui. et parfois pour tomber à l'eau.
Vous aussi.
Oui, oui, oui.
Ouais, ouais, ouais. Et vous disiez par rapport à cette association, c'est vrai, figurez-vous que moi aussi, j'en ai entendu parler.
Oui.
Parce qu'une fois, je vais dans une librairie, je me renseignais à l'époque sur Sherlock Holmes, j'achète donc trois livres Sherlock Holmes, et la libraire me dit, mais vous êtes holmésien. Je me dis, de quoi elle m'accuse? Moi, je ne suis pas aussi au courant que vous, cher Max-Philippe Morel. Donc, je lui dis, qu'est-ce qu'elle me dit là? Ce n'est pas une maladie, j'espère. Et je lui dis, ah oui, holmésien, je comprends quand même, parce que je ne suis pas non plus né de la dernière pluie, amateur de Sherlock Holmes. Elle me dit, oui, figurez-vous que le président de l'association Sherlock Holmes vient de passer ce matin pour déposer la revue, le carnet d'écrou. Je lui dis, ah bon, il y a une association Sherlock Holmes à Strasbourg. Elle me dit, oui, ils sont une bonne dizaine, peut-être même une vingtaine. Vous pouvez les rencontrer. Je n'en revenais pas, franchement.
Ah oui. Bah
donc, je suppose que c'est comme ça que vous les avez plus ou moins connus, vous aussi, par librairie, par... Et ça se prend assez bien aussi, mais de rien,
cette revue. C'est pas seulement le bouche à oreille, c'est la loupe à oreille. Et du coup, bon, moi, depuis 1984, j'écris dans beaucoup de revues. Je ne sais pas si vous connaissez Phoenix... Martobre, alors bien sûr le carnet d'écrou, hein,
voilà, bien sûr. Forcément.
Et puis Géante Rouge, donc c'est des noms de revues un petit peu
colorés
et éphémères souvent. Et Chimère Miniature, ce qui c'est assez rigolo, ça fait penser à Gérard de Nerval, mais je ne sais pas. Vous connaissez cette revue?
Ah, pas du tout, non, j'avoue que... Visiblement, vous publiez dans beaucoup de revues confidentielles.
Oui, voilà. Mais voilà. Mais vous savez que je suis également un dessinateur.
Ah,
oui, vous avez... Oui.
Non, ça, je ne savais pas.
Oui, oui.
Ah bon, très bon.
Oui, et donc, je rêve de faire de la bande dessinée.
Ah oui, sur Sherlock Holmes, je suppose.
Je fais des illustrations. Alors... Bon, Sherlock Holmes, c'est un petit peu un voyage dans l'Angleterre, 1854, je ne sais pas si vous savez.
C'est sa naissance, je crois.
Oui, et Flaubert était en train d'écrire Madame Bovary en même temps. Donc si on compare les deux, c'est quand même des mondes tout à fait différents. Et justement, moi ce que j'aime, c'est voyager dans l'intemporel, de voyager un petit peu n'importe où. Et je voudrais faire un guide, un guide qui s'appellerait « Au cœur du temps ». Alors, au cœur des ténèbres, peut-être, et tout, mais ce serait un guide, une sorte de guide du routard du voyage intemporel.
Eh bien, ça, c'est ambitieux, quand même.
Oui. Et alors, j'ai trouvé un titre. Alors, je sais pas, alors, dites-moi, Ambroise, en tant que journaliste, ce serait le guide du retard.
Du retard. Ah, peut-être.
Parce que, le retard, donc, on ne sait
pas
où on est.
Je ne sais pas, c'est un peu mystérieux, quand même, comme titre, là, je trouve. Hein.
Oui.
Le guide pour ceux qui sont en retard, c'est un peu long.
Non, c'est un guide où on ne sait pas où on est. Oui, je ne sais pas.
Oui,
bon. Mais bon, les variations sur le monde perdu, c'est quand même quelque chose... Quand je me suis lancé un peu dans la science-fiction, j'ai cru que c'était une secte. Il y avait des gens... Hubert à Wissembourg, je ne sais pas si vous connaissez ce
Jean-Pierre Hubert, qui est relativement connu.
Voilà, et donc voilà, donc moi, voilà... comme je faisais des signatures dans les librairies, je l'ai rencontré. C'est un gars formidable. Je sais, Ambroise, que vous êtes de Wissembourg, donc c'est pour ça que vous le connaissez.
Oui, mais effectivement, j'ai entendu parler, entre autres à cause de ça, mais aussi parce qu'il a publié plusieurs romans chez De Noël.
Oui,
auteur qui est connu nationalement.
Voilà.
Pas seulement dans certains stammtisches.
Voilà. Voilà. Ah ben, et moi, en tant que Philippe Max Morel, je connais aussi Philippe. Paul Alter.
Ah oui,
Paul Alter.
Vous connaissez Paul Alter.
Vous connaissez
le grand auteur de romans policiers, spécialiste des chambres closes, vous connaissez Paul Alter.
Eh bien, je vais vous dire pourquoi.
Bah, oui.
Parce que, pour préparer cette émission, j'ai tapé sur Google Ambroise Perrin et j'ai cherché, et j'ai trouvé dans les archives de l'INA que vous aviez interviewé Paul Alter dans les années, au tout début des années 80, pour un livre de chambres closes. Qu'il avait eu le prix du masque à Cognac ou à Schnapps, je ne sais plus quelle ville, mais oui.
Mais vous savez que d'habitude, c'est moi le journaliste qui fait ce genre de recherche et pas l'auteur, c'est quand même extraordinaire ça.
Oui, mais voilà. Donc pour dire qu'en Alsace, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas les pieds dans les racines du maïs.
Qui font un petit peu autre chose quand même, c'est vrai.
Oui.
Oui, en tant que journaliste, j'avais remarqué ça, qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'artistes, la grosse question qu'on peut vous poser, vous parlez beaucoup de la science-fiction, romans policiers, chambres closes, tout ça, est-ce que c'est vraiment de la vraie littérature? Est-ce que c'est pas un peu de la littérature de gare? Des choses faciles pour se décrasser les neurones, mais enfin, ça va pas loin, non?
Il ne faut pas mépriser il faut pas mépriser la littérature de gare ou la littérature populaire ou... moi j'écris, alors comme tous les auteurs, j'ai pas le temps, j'ai des copains qui me demandent les textes, j'ai trois livres en même temps que je rédige. Mais là, récemment, j'ai lu une série Harlequin. Est-ce que vous, journaliste, vous avez déjà lu ça? Je suis sûr que vous avez déjà dit du mal, plus ou moins, de la série Harlequin sans jamais en avoir lu un titre.
Je pense qu'effectivement c'est le cas, je dois l'avouer.
Les journalistes, vous êtes quand même terribles, parce que moi j'en ai lu.
Ah bon, alors là, bravo.
C'est assez drôle parce qu'on se dit, tiens, je pourrais faire pareil, c'est tellement facile, c'est pas vrai. Il y a des règles du jeu qui sont, il y a des contraintes, alors c'est pas Georges Perec, mais il y a des contraintes, il faut qu'elle soit jeune, belle, que l'autre soit un médecin, il est veuf, sa femme est morte dans un accident de voiture, ils vont se rencontrer, il faut quand même 50 pages avant que ça se passe et tout, mais c'est vraiment très intéressant, c'est très rigolo, ça se lit bien. Bon, la littérature populaire, Sherlock Holmes par exemple, ça peut très bien être très complexe comme écriture, et si vous lisez Ambroise Perrin mes livres, vous verrez que il y a derrière l'aspect catalogue des façons d'écrire qui sont typiquement littéraires que je m'impose, qui ne sont pas évidentes, que je ne laisse pas voir de façon claire pour l'auteur, mais qui font que tout d'un coup, on est à la fin du livre.
Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les auteurs de littérature populaire sont comme des marionnettistes qui tirent des ficelles et qu'il ne faut pas voir les ficelles.
Voilà, c'est un petit peu cela.
C'est ça, n'est-ce pas?
Oui. Oui, il y a un petit jeu comme ça qui est très tentant. Et je dois dire que oui, quand je fais des signatures dans différentes librairies de Strasbourg, les gens qui viennent, bon, un sur deux, je les connais, c'est des amis. Mais je suis souvent étonné de la pertinence du lecteur. Il vient parce que parfois il ramène même le livre qu'il a déjà à la maison, donc le libraire n'est pas très content parce qu'il ne le vend pas, mais il me corrige mon bouquin. Alors, il me parle, oui, mais au chapitre 3, vous avez dit ça et vous avez fait ça, mais en même temps, ce n'est pas rationnel, et bien on ne comprend pas pourquoi vous avez fait ça et tout. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que je leur rappelle quand même que Sherlock Holmes, c'est un personnage de fiction qu'on invente, et puis, dans Sherlock Holmes, c'est comme dans certains animaux, tout est bon. Mm-hmm. Donc, ça me permet de divaguer comme ça, voilà.
Oui, et d'après ce que j'ai compris, l'association de Strasbourg joue beaucoup là-dessus, sur le fait de détailler un petit peu les petites choses qui se passent dans tel roman, dans tel film, et d'aller au fond des choses pour essayer de creuser qu'est-ce qui serait pas logique, qu'est-ce qui pourrait être plus logique. Vous faites beaucoup ce travail-là d'épluchage de chaque roman, de chaque film.
Oui, je crois que les réalisateurs, d'abord les producteurs, puis les réalisateurs qui font des films en payant des droits pour faire sur Sherlock Holmes, ils ne regardent pas les films de leurs prédécesseurs. Ils ont vaguement lu la page Wikipédia sur Sherlock Holmes, et puis ils se lancent dans l'histoire. Et finalement, c'est pas mal, parce qu'ils réinventent le personnage avec les quelques clichés nécessaires, parfois même en changeant l'ambiance, l'atmosphère londonienne, des brouillards et de la Tamise qui fume. Et pourquoi pas,
oui, c'est ce que fait un peu la série Sherlock dont vous parlez dans votre bouquin, qui, si j'ai bien compris, transpose Sherlock Holmes au XXIe siècle avec des nouvelles technologies, mais adapte quand même des histoires de Conan Doyle.
Oui.
Et j'ai appris aussi que les producteurs de la série, et les réalisateurs et scénaristes, s'étaient beaucoup inspirés des films avec Basil Rathbone.
Ah oui.
Comme quoi, il y a quand même toujours un écho de ce qui s'est passé avant, de ce qui s'est passé dans les années 40. En l'an 2000, il y a encore des gens qui s'inspirent de ce qui s'est passé 70 ans avant. Donc il y a une espèce de continuité, n'est-ce pas, dans cette espèce d'utilisation du personnage.
Mais écoutez, Ambroise, moi je trouve que vous connaissez beaucoup de choses sur Sherlock Holmes. Je vais vous faire une proposition, c'est de venir à notre prochaine réunion et on va vous coopter comme membre de notre association des Sherlock Holmes. Et vous savez comment s'appelle notre association ?
Alors, je ne sais plus exactement, c'est pas les égarés de Strasbourg, les évadés de Niederforschalsfolsheim.
Niederforschalsfolsheim, oui, c'est
non,
ça.
Non, je ne sais plus. Non,
c'est ça.
Oui, c'est ça, d'accord.
Voilà, mais on se réunit de façon tout à fait irrégulière et informelle. Il n'y a pas de mot de passe pour rentrer dans la salle.
Ça fait plaisir, parce que j'avais peur un peu de ça en lisant vos bouquins.
Non, il faut avoir une loupe à la main.
D'accord, voilà. Ok. Eh bien, cher Max-Philippe Morel, merci beaucoup de cette invitation. Je viendrai avec plaisir pour en apprendre encore un peu plus.
Oui, eh bien, écoutez, cher Ambroise Perrin, merci de m'avoir invité. Et on tourne la dernière page, mais comme on dit toujours, à suivre.
À suivre, bien entendu.
C'était l'épisode numéro 48 de « Vous l'avez bien connu, toc toc toc, c'est toi, cher Locke », avec aujourd'hui Max-Philippe Morel. À la technique, on laisse passer le cri de Willem, à la technique Lucas Bringoux, vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. Et mon nom est élémentaire, mon cher Watson. Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between...